aujourd'hui, nous partons sur la côte mauritanienne à la découverte du parc national du Banc d'Arguin.
Un lieu unique, constitué de bancs de sable entre un littoral désertique où le Sahara se jette dans la mer et l'immensité de l'océan Atlantique. Un écosystème exceptionnel, parc national depuis 1976 et classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1989.
Le Banc d'Arguin, c'est un reportage de Clémentine Genevrier à découvrir tout de suite. C'est un véritable paradis pour les oiseaux migrateurs. Ils arrivent des quatre coins de la planète. Certains font même 4000 km sans escale pour atteindre ce fameux banc d'Arguin. Ici, ils trouvent un écosystème unique où ils passent l'hiver. Nous sommes aux portes du désert. J'ai embarqué 4 jours avec une équipe d'ornithologues portugais, Antonio Araújo et Paulo Xavier Catri, et le naturaliste Sidi Mohamed Oulerlou. Après 2 journées de traversée du désert et quelques ensablements de notre 4x4, nous rejoignons la côte, encore quelques kilomètres de dunes vers le nord, direction le Cap Alsace.
C'est le Cap Alsace.
En face de nous ?
En face de nous, absolument. C'est une falaise... qui a la même structure chimique ou bien géologique que l'île d'Arguin.
Et ces dunes de sable fin là, ces dunes parfaites, elles se déplacent beaucoup?
Oui, ce sont des patrans qui se déplacent beaucoup. Des dunes en croissant, en forme de croissant, et elles se déplacent du jour au lendemain, ce qui montre bien que la dynamique éolienne est très intense au banc d'Arguin. On peut faire 20 cm par heure, ce qui est énorme.
Et quelles espèces d'oiseaux on peut observer ici?
Là, c'est surtout des goélands et parfois des cormorans et des flamants roses de passage.
C'est toujours incroyable, hein, le contraste entre le Sahara et l'Atlantique. Vraiment un paysage lunaire sur la gauche. Et l'océan bleu turquoise aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent ici, donc la prise de son est difficile. Mais
en réalité, c'est le vent. La richesse de tout ça, c'est le vent qui l'apporte. Oui, parce que... Il n'y a plus d'apport d'eau douce, il n'y a plus d'apport fluviaux, tu vois. Les grands fleuves qu'on a traversés, qui sont maintenant secs, n'apportent plus des sédiments. Et c'est le vent qui continue à enrichir l'estuaire, entre guillemets, qui n'est plus un estuaire parce qu'il n'y a plus d'eau douce. Si ce n'était pas le vent, il n'y aurait pas cet input, cet apport permanent de sédiments parce qu'il n'y a plus d'eau douce. Et de l'autre côté aussi, c'est le vent qui est à l'origine de la poêling, du phénomène de la poêling. C'est un phénomène de remontée d'eau froide, très riche en minéraux, et qui donne aux eaux mauritaniennes la richesse en poissons qu'elle a, parce qu'il y a cette remontée d'eau froide très riche en minéraux provoque des blooms de phytoplancton, qui sont des petites micro-plantes qui sont à la base des chaînes marines et qui donnent à manger aux oies, aux plancton, qui sont des éléments de la faune microscopique, beaucoup d'entre eux, et qui donnent à manger aux poissons, etc. Donc c'est ce vent aussi qui repousse les eaux de surface et qui permet la remontée des eaux profondes chargées de minéraux et qui donne la richesse aux eaux. Donc tu vois, c'est pas toujours les choses les plus dérangeantes qui sont les moins importantes. Si ces vents qui sont les alizés ne soufflaient pas en permanence, probablement toute la zone des îles, toute la zone de vasières avec des herbiers serait beaucoup plus érodée, parce que bon, il y a l'érosion permanente de l'eau, et s'il n'y a pas un apport de sédiments, ça n'existerait peut-être pas depuis 3000 ans qu'il n'y a plus d'eau douce qui rentre ici.
Antonio Arrujo, ornithologue.
Je travaille ici en Mauritanie pour la Fondation internationale du mandarin. Et c'est une fondation qui a été créée précisément pour appuyer les autorités mauritaniennes à gérer cet espace vu son importance planétaire. Et on continue à poursuivre les objectifs de sa création, qui est d'assurer que cet espace puisse rendre à l'humanité les services qui sont dus, vu son importance pour la biodiversité.
La lumière baisse, il est 18h30, la marée est haute et on voit quelques spatules. Alors quels sont ces oiseaux, les spatules?
Il y a en fait deux espèces de spatules. Il y a la spatule endémique du mandarin et il y a la spatule européenne. Là, c'est la spatule endémique avec un bec noir et une tache jaunâtre. C'est une espèce qui est particulièrement endémique au niveau du mandarin. Ah, mais il y a des spatules.
Tout le monde sort ses jumelles.
Excusez-moi. Spartina maritima.
Paolo, au loin, qu'est-ce qu'on voit là? C'est une dizaine d'oiseaux en vol serré.
Là, c'est simplement des goélands qui viennent d'Europe. Mais ici devant, on voit des milliers de limicoles. C'est un très grand nombre. C'est très impressionnant.
Alors, qu'est-ce que sont les limicoles?
Ce sont des oiseaux qui viennent surtout de l'Arctique, la plupart. Ils viennent de l'Arctique et où ils nichent, et puis ils viennent ici passer l'hiver. Ils mangent des petits vers, des coquillages, des crustacés.
Ils ont d'autres endroits pour se retrouver l'hiver?
Oui, il y en a un peu partout, mais nulle part comme ici. Ici, c'est la plus grande concentration au monde. Il y a à peu près 2 millions qui passent l'hiver ici.
2 millions de limicoles?
C'est ça.
Et ça ressemble à quoi alors un limicole?
Ils ont des longues jambes, beaucoup ont des longs becs et c'est à peu près comme une bécassine. Une bécassine en fait c'est un type de limicole où il y a les gravelots, les huîtriers, ils ressemblent un peu à des petites cigognes si on veut.
Et alors on sait pourquoi elles viennent ici?
Il y a plein à manger, et parce que il y a des vasières qui ont une grande surface. Et aussi, il n'y a pas beaucoup, parce que c'est très sec, il n'y a pas beaucoup de maladies ici, il n'y a pas trop de prédateurs. Ça fait un milieu très favorable. Mais c'est des grands voyageurs, ils peuvent voler pendant des journées et des nuits sans s'arrêter. D'ici, elles vont une grande partie vont directement à la mer de Waden, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark. D'un seul coup, ils peuvent voler 3-4 jours sans s'arrêter. La plupart partent d'ici fin d'avril et même au début du mois de mai. On les entend un peu en ce moment.
Alors ça y est, l'ornithologue revit après ce désert là qu'on a traversé pendant 2 jours, sans un seul oiseau quasiment.
Ouais, et puis tout d'un coup, ouais, c'est vrai, hein. On a fait des heures de voyage sans voir un seul oiseau. Et puis tout d'un coup, ici, il y en a par milliers. Vraiment. Il y a littéralement des milliers qu'on voit juste en face en ce moment.
Nous sommes donc entourés de milliers d'oiseaux. Et pour pouvoir les observer au plus près, eh bien, il n'y a qu'une seule solution. Monter à bord d'une lanche à voile. C'est une sorte de voilier en bois d'environ 12 mètres. C'est l'embarcation traditionnelle des pêcheurs Imraguen. Ces pêcheurs, ils sont installés dans les 9 villages côtiers de la réserve du Bandarguin. Et ce sont les seuls qui sont autorisés à pêcher sur la zone. On ne voit aucune pirogue à moteur à l'horizon. Selon la saison, ils pêchent des mulets jaunes, des maigres, autre nom de la courbine, ou des capitaines. Direction maintenant la lange d'un vieux pêcheur imraguen, Smetta, qui est né et a vécu toute sa vie dans le village d'Iouk.
Smetta, chemasi, jak pesaliku.
Donc on arrive sur la plage d'Iouik, on va embarquer sur...
Inch'Allah.
Sur la lange de Smetta.
Ça, c'est des langes qui ont été amenées par les Canariens, les pêcheurs canariens, mais qui sont probablement d'origine méditerranéenne. C'est des langes qui sont probablement catalanes. Et donc ici, il y avait une pratique très, très active. Il y avait beaucoup d'activités du sécher salé. Des courbines qu'on a vues hier, par exemple, c'était un des cibles des pêcheurs canariens dans le parc. Et ces courbines, elles étaient transformées à travers le sécher salé et renvoyé aux Canaries. Donc ces linges venaient parce que le parc est surtout composé d'eau fond, et ces linges ont un tirant d'eau très très faible, donc sont très adaptés à ce milieu. Ils sont très manœuvrables, malgré la voile latine, très très manœuvrables. Et donc les Espagnols les ont introduits pour pêcher les mérous, les courbines dorades, dans les zones du Bandarguin qui étaient connues depuis longtemps pour la flottille espagnole de pêche. Et donc les goélettes chaque année arrivaient avec des lanches à bord. Les goélettes, ces grands bateaux qui transportaient, comme les bateaux de la morue à mer du Nord, qui transportaient par la suite le produit séché salé en Canaries. Ils laissaient les lanches sur place, parce que c'était tellement pas cher de les fabriquer aux Canaries, qu'ils ne les ramenaient plus. Et donc chaque voyage que les goélettes faisaient des Canaries vers Nouadhibou, elles amenaient deux, trois linges. Et donc je pense que la flottille à l'époque devrait être de plusieurs centaines de linges. Parce que nous actuellement au parc, on a une flottille de 114 linges. Et c'est la plus importante flottille au monde de bateaux de pêche à voile dans un espace protégé sûrement. Mais à l'époque, ça devrait être beaucoup plus. Et les Imraguen qui avaient appris le métier de la navigation à voile avec eux, ils ont repris les linges. Et ça a été le début de tout le changement du Bandarguin, c'était l'introduction de ces linges. On est pratiquement cap nord pour arriver à deux flamands qui passent. On est pratiquement cap nord pour arriver à l'île d'Arel. C'est la plus importante île de nidification des pélicans. La saison est finie maintenant, il n'y a plus de nidification. C'est un dortoir très important parce qu'elle est entourée de vasières énormes aussi. Et la plus importante colonie de pélicans, c'est là-bas. Ça, c'est deux espèces différentes d'aigrettes. C'est l'aigrette dimorphe ou des récifs et l'aigrette gervette. Là-bas, c'est des barges rousses. Il y a des bécassomobèches qui viennent de passer aussi. Et devant, il y a une autre concentration importante de pélicans, cormorans, spatules et hérons cendrés qui sont déjà sur la zone de repos. Ces îles sont entourées de vasières et donc sont des zones d'alimentation, de nourriture très très importantes. Pendant la marée haute, les poissons remontent des chenaux et viennent se nourrir des vers sur les estrins. Quand la marée descend, ils reviennent dans les chenaux et c'est les oiseaux qui occupent les estrins et qui se nourrissent. Donc ce sont des zones qui sont d'une productivité biologique énorme et qui sont toujours en train de souffrir de la prédation, soit par les poissons, soit par les oiseaux. Donc à ce moment-là, les oiseaux sont tous concentrés dans les dortoirs, dans les zones qui sont à découvert pendant la marée haute. Ils attendent que la marée descende et ils recommencent à se nourrir. Donc c'est jour et nuit, c'est comme ça le cycle des marées, le cycle des oiseaux limicoles. Il y a quelques cormorans, quelques pélicans, quelques flamants roses, même devant nous maintenant, tu vois, les oiseaux qui sont là, ça donne l'impression qu'ils flottent au milieu de la mer, mais non, ils sont debout. Parce que la marée n'est pas complètement haute encore, mais les concentrations de limicoles sont un peu devant. Et la tache noire foncée qui est là, c'est un estrin qui commence à être couvert par la marée.
Un estrin, c'est une vasière ?
Une vasière, oui. La surface du Bandarguin, la surface de vasière disponible n'est pas énorme. Et il y a un apport très important de nitrate à partir des éjections des oiseaux, parce que tu as une concentration très importante sur les estrins. Donc on soupçonne qu'il y a un effet d'engrais qui est considérable. Et de l'autre côté aussi, tu vas les voir manger à marée basse. Donc les limicoles, les becs sont très tactiles. Elles perforent en permanence le sédiment pour chercher des vers qui ne le voient pas. Ils descendent avec le bec. Et donc ça fait des millions et des millions de trous que les écologues, notamment hollandais, estiment être importants pour le bon fonctionnement des vasières, parce que ça oxygène les vasières.
On descend de notre lange pour parcourir à pied ces vasières. Pas évident de marcher sur ce sol spongieux, on s'enfonce à chaque pas. Imaginez le panorama, un ciel pur et à perte de vue, des millions de limicoles, pélicans et flamants roses, tête baissée dans ces vasières. Ce sont de grandes étendues constituées de vases, de sédiments, qui offrent un écosystème intact. Et ces vasières apparaissent uniquement à marée basse.
Ces estrins... Et en réalité, sont peut-être les seuls estrins au monde qui n'ont jamais souffert de pression humaine depuis le début. Ils sont, bon, à part les changements physiques ou les changements naturels du milieu, de courant, d'anthologie, etc., ils sont ce qu'ils étaient il y a 3000 ans, complètement vierges, parce que les populations côtières qui fréquentaient le parc dans le néolithique n'avaient pas de moyens de déplacement, donc ils exploitaient les coquillages en bordure, sur le rivage. Et après, avec l'arrivée des populations arabo-berbères, qui n'ont pas d'habitude de se nourrir de ce genre d'animaux, il n'y a jamais eu de pression sur les estrins. Jamais. Partout, dans toutes les zones humides au monde, tu as des populations qui récoltent des vers, des mollusques, enfin, qui ont une activité très intense sur les estrins.
Il y a quelle sorte de mollusques d'ailleurs ici sur ces estrins ?
Il y a plusieurs espèces. Bon, il y a la principale, c'est la nadalacénine, et ce coquillage qu'on voit ici. Tu vois ? C'est comme une coque, mais beaucoup plus grande. Et ça, il y en a beaucoup. Et il y a après plein d'autres gastropodes et mollusques bivalves qui ne sont pas utilisables pour l'alimentation humaine, mais qui regardent comment ils mangent. Tu vois les becs qui perforent en permanence le sédiment en recherche de petits gastropodes surtout. Il y a plusieurs espèces de crustacés, des crabes, il y en a deux ou trois espèces de crabes. Il y a énormément d'espèces de crevettes. Toutes les petites flaques d'eau que tu vois éparpillées sur l'estrin forment en fait des micro-systèmes, micro-habitats pour tout un tas de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu.
Le banc d'Alguin est très reconnu par sa richesse en crustacés. Particulièrement, il y a beaucoup de réserves de prairies.
De prairies ?
Oui, de prairies, oui. Et qui sont convoitées par beaucoup de sociétés étrangères. Et en particulier par un groupe de chercheurs hollandais qui veulent donc l'exploiter et tirer profit de cette richesse.
Est-ce qu'on sait, par exemple, si on prend le cas particulier de la praire, ce que ça changerait dans l'écosystème si la praire disparaissait ?
On a montré, par des études d'impact scientifiques qui ont été faites, que pratiquement une exploitation seulement de 20% de ce tiers pendant 3 ans contribuerait à détruire le tiers de l'écosystème du banc d'Alguin.
Le tiers.
Et donc c'est important, seulement en 3 ans. Donc imaginez-vous une exploitation qui durera 10 ans ou bien 15 ans. Parce qu'en fait, les méthodes qui sont utilisées pour exploiter les prairies, c'est des méthodes qui demandent, comment dirais-je, ce qu'ils appellent eux un grattage. Et c'est ce grattage qui va détruire et déséquilibrer totalement l'écosystème.
En face de nous, là, en randonnion.
Oui, un grand rassemblement de pélicans. Et ici à gauche, des blancs très serrés. Ça, c'est une bande de spatules. Chaque 4-5 ans, on fait un dénombrement global en hiver, le mois de janvier. Partout au monde, il y a des dénombrements d'oiseaux d'eau. en simultané à peu près au mois de janvier. Ça permet de faire des comparaisons entre années et ça nous a permis de voir qu'il y a effectivement certaines populations qui ont des problèmes compliqués. Il y a des populations de limicoles qui ont diminué de 40 jusqu'à 60% des populations qui existaient quand ces dénombrements ont commencé il y a plusieurs années. Donc quand les changements sont importants, à travers ces dénombrements, on peut détecter des changements, ce qui permet après de lancer des projets de recherche spécifiques pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est le cas des Bécasses maubèches, qui sont une de ces espèces dont des diminutions très importantes ont été enregistrées et qui fait l'objet maintenant d'une étude à la mer de Vaden par la même équipe et ici, parce qu'elle passe à la mer de Vaden et elle passe ici aussi, les mêmes oiseaux. Les oiseaux, sauf au Bandarien, ils ont partout des dérangements permanents. Ici, c'est très rare d'avoir des dérangements. Il y a des gens qui débarquent ici à Rel peut-être une fois par an pour les dénombrements. Même pas une fois par an. Ça, c'est le sterne royal.
Qu'est-ce que c'est que ces ronds là qu'on voit sur la plage comme ça?
Ça, c'est les flamands qui font ça, tu sais. Les flamands, ils ont une espèce de barbe comme les baleines dans le bec et ils filtrent l'eau et fixent le plancton et des micro-organismes qui sont dans l'eau et du petit bentos, des petits crustacés. Et donc, ce qu'ils font pour soulever ce qu'il y a en suspension, tu vois, donc ils tournent en rond. Quand ils tournent en rond, toute la matière est en suspension et après ils font filtrer, ils passent l'eau filtrée là-dedans et ils se nourrissent comme ça. Et donc tu les vois souvent avec la tête dans l'eau, tu vois, avec les... Mais la tête est dans l'eau, pas ici. La tête en bas, ils sont avec les pieds, ils filtrent l'eau et ils se nourrissent comme ça. Et donc ils laissent toutes ces marques. Ça se transforme en piège. C'est des pièges en matière morte, matière végétale morte, tu vois, toutes les feuilles d'herbier mortes restent piégées, ne partent pas avec la marée parce que tu as vu des radeaux très importants en mer. Mais il y a une bonne partie qui reste piégée ici, en marée basse, et qui sert de zone de refuge pour des organismes très petits qui sont à la base des chaînes. Il y a tout un ensemble d'espèces de poissons qui n'ont pas d'alternative autre que de venir ici pendant la période de maturation sexuelle et pendant la période de reproduction. On a découvert, il y a des choses importantes du point de vue de la biodiversité, on a trouvé un nouveau genre, une nouvelle espèce, même nouveau genre de raie guitare il y a quelques années. C'est une zone super importante pour plusieurs espèces, par exemple pour les requins marteaux, qui est une espèce de requin la plus menacée actuellement. C'est une zone clé, absolument clé pour le développement des juvéniles. Il y a des concentrations très importantes de juvéniles. Zone de mise bas pour plusieurs espèces de raies. La raie guitare, par exemple, c'est une des espèces qui est pratiquement isolée ici parce que c'est une espèce qui est très accrochée à des zones d'eau saumâtre. Et la population sous-régionale la plus importante est le Bandarguin. Et après, si on parle de mammifères marins, il y a deux espèces de dauphins, le grand dauphin et le dauphin à bosse, qui sont aussi très nombreuses ici. Il y a des aires marines protégées au monde qui sont plus vastes que celles-ci, notamment en Australie et dans d'autres endroits. Mais c'est la plus grande surface, sûrement la plus grande surface au monde où il n'y a pas d'embarcation motorisée. Et c'est un effort important pour tout un tas d'espèces de la faune et de la flore, et il n'y a pas un engagement de la communauté internationale à l'auteur. Tu vois. Donc c'est effectivement au niveau planétaire, à l'échelle mondiale, une chose absolument unique. On est maintenant en train de créer un fonds fiduciaire qui va permettre une certaine autonomie à longue durée pour le fonctionnement de l'aire protégée. Parce que si on ouvre le parc, si la surveillance maritime s'arrête, tu auras 4000 pirogues le lendemain dans le parc. Ils vont venir immédiatement, c'est évident.
Mais les espèces protégées vont immédiatement disparaître.
Ouais, ouais.
Pour l'instant, le Bandarguin reste une zone protégée hors pair et les autorités mauritaniennes sont impliquées. Il y a quand même une ombre au tableau, la menace d'un projet pétrolier. Pour le moment, elle est a priori écartée, mais pour combien de temps encore, nous n'en savons rien. Quoi qu'il en soit, le parc national du Banc d'Arguin espère une chose, un engagement plus significatif de la part de la communauté internationale.
Sur ce reportage de Clémentine Genévrier en Mauritanie se termine pour aujourd'hui votre magazine de l'environnement.
N'hésitez pas à nous écrire pour témoigner sur des sujets environnement qui vous entourent ou pour poser en direct des questions à nos spécialistes. Une seule adresse, cepaduvent@rfi.fr.
Nous vous souhaitons un bon week-end et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.
Même planète, même heure.